RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, la Lituanie a 100 ans. Le 16 février 1918, 20 hommes, des personnalités du monde économique et culturel, se réunissent à Vilnius et signent la déclaration d'indépendance, un acte retrouvé l'an dernier dans les archives diplomatiques allemandes. La Lituanie existait depuis longtemps, mais cette date marque le début de son existence démocratique. En l'espace d'un siècle, l'histoire de la Lituanie n'a pas été un long fleuve tranquille. Les 50 ans d'occupation soviétiques ont éprouvé le pays. Les Lituaniens ont regagné leur indépendance en 1990 et aujourd'hui, ils sont bien intégrés dans les structures occidentales comme l'Union européenne ou l'OTAN. Mais comment vit le pays aujourd'hui? La Lituanie à 100 ans, état des lieux, grand reportage, signé Marielle Vituro.
Ces dernières années, on le voit nettement, la Lituanie est devenue plus belle. Le pays se modernise, mais il se vide aussi.
Dans la famille Katkus, voilà Laurinas, la quarantaine. Écrivain et traducteur de l'allemand, il habite avec sa femme et leurs trois enfants dans un immeuble d'Antakalnis, un joli quartier de Vilnius à la lisière de la forêt. Impossible de ne pas être d'accord avec lui. Et pour preuve, à quelques pas de sa maison, dans les bâtiments d'un ancien hôpital entièrement rénové, des start-up se sont installées. Son père, Donatas, est un chef d'orchestre célèbre. Il nous reçoit chez lui après une répétition. En bonne place, au milieu de son bureau, un petit clavier et des centaines de partitions. Quand il dresse le portrait de la Lituanie actuelle, un mot revient toujours à sa bouche, la vitalité.
La vie culturelle connaît aujourd'hui une véritable renaissance. Même s'il y a très peu d'argent pour financer la culture, nous avons tout de même des chanteurs très talentueux, des jeunes compositeurs fantastiques qui commencent à émerger. Et dans le domaine scientifique, c'est la même chose. La Lituanie fait partie des premiers au niveau mondial dans la fabrication des lasers. Et c'est la même chose pour les biotechnologies. La société Fermentas, créée par un Lituanien, occupait la troisième place mondiale. Aujourd'hui, la société a changé de main, mais elle existe toujours et c'est là que je place tous mes espoirs.
La Lituanie a aujourd'hui 100 ans. La mémoire de la première indépendance entre les deux guerres est encore transmise de génération en génération. Des vies souvent mouvementées, mais libres, comme celle de Kazimira, la mère de Donatas Katkus, née en 1905.
Ma mère a appris le métier de cuisinière. Jusqu'à la fin de sa vie, j'ai toujours bien mangé chez elle. Dans la petite ville de Telšiai, elle a ouvert un restaurant. Elle faisait si bien la cuisine que le maire et les prêtres venaient déjeuner chez elle tous les jours. Ensuite, elle est partie en Belgique, dans un couvent. Puis elle a travaillé comme domestique à Paris, tout près de l'église Notre-Dame. Juste avant le début de la guerre, en 1939, elle est revenue en Lituanie.
La Philharmonie de Vilnius n'est pas seulement le lieu où Donatas Katkus a dirigé de nombreux concerts. La diète lituanienne au sein de l'Empire tsariste s'y est réunie en 1905 et a exprimé pour la première fois le souhait d'une autonomie politique. C'est ce que rappelle l'historien Norbertas Černauskas, spécialiste du XXe siècle, que l'on rencontre devant la Philharmonie. L'indépendance sera, elle, signée 13 ans plus tard et en l'espace de quelques années, la Lituanie trouvera sa place sur la carte du monde. Trois mots résument pour lui la période de l'entre-deux-guerres.
Les avions NBO, le basket et le beurre. Sans vouloir faire de boutade, ces trois mots caractérisent bien cette période de première indépendance. NBO est le nom d'un avion. La Lituanie s'est rapidement mise à créer sa propre aviation. Les généraux avaient d'ailleurs étudié en France. Ces avancées technologiques sont le symbole du renouveau de l'enseignement. Jusqu'alors, les Lituaniens n'avaient presque pas accès à l'école. Le basket est un élément fort de notre identité culturelle, et ce grâce à l'aide d'émigrés lituaniens aux États-Unis qui l'ont introduit ici. Quant au beurre, il symbolise le succès économique du pays. Les grandes propriétés et le servage avaient décimé l'agriculture lituanienne, mais en l'espace d'une décennie, la réforme agraire a réussi et le secteur agricole est devenu le moteur de l'économie lituanienne.
Réformé, tapo visos ekonomikos ir ūkio pagrindu realiu.
Cette période de prospérité s'est avérée cruciale pour la transition démocratique de la Lituanie en 1990 au sortir de l'Union soviétique. Norbertas Černauskas.
Durant cette période, une nouvelle société s'est formée. 20 ans ont suffi pour qu'elle acquiert une véritable identité et les 50 ans d'occupation n'ont pas réussi à les effacer. En 1990, cette expérience a été salvatrice. Lorsque les institutions se sont recréées, elles l'ont été sur la base de celles existantes durant cette première république. Les mêmes noms ont été utilisés pour les dénommer. La structure des forces armées a été reprise à l'identique. Bien évidemment, par la suite, ces institutions se sont réformé car la période n'était plus la même. Mais pour les débuts, l'aide a été considérable.
Aujourd'hui, près de 30 ans après la sortie de l'Union soviétique, la Lituanie vit à l'heure mondiale. Les exportations de meubles ou de produits laitiers tirent la croissance économique vers le haut, près de 4% en 2017, et le tourisme devient un secteur porteur. Donatas Malinauskas porte les mêmes noms et prénoms que l'un des 20 signataires de l'acte d'indépendance de la Lituanie de 1918. Il n'a pourtant rien de plus en commun avec lui, à part peut-être d'être lui aussi un véritable ambassadeur de son pays. Le produit qu'il commercialise depuis 2014 s'est vendu à une centaine de milliers d'exemplaires dans le monde entier.
Nous avons conçu un sonar intelligent. Cela permet aux pêcheurs de savoir tout de suite où lancer leur ligne. Le sonar plongé dans l'eau envoie des ultrasons. Suivant le retour des ondes, cela lui permet de déterminer la profondeur, la présence ou non de bandes poissons. Et toutes ces informations sont disponibles en ligne sur le téléphone grâce à une application.
Aujourd'hui, sa société Deeper emploie 64 personnes. Plusieurs Européens, des Américains et un Australien ont rejoint son équipe à Vilnius, installée dans les anciens bâtiments d'un hôpital transformé en parc technologique. Il n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'envol que prennent les nouvelles technologies en Lituanie, tant dans le domaine des biotechnologies que de la finance. Donatas Malinauskas la scène, elles sont l'avenir de son pays.
Dans une perspective à long terme, les gens sont la richesse principale de la Lituanie. Nous n'occupons pas une place privilégiée dans le monde. Le sous-sol lituanien ne recèle d'aucune richesse en particulier. Notre principal atout, c'est nos ressources intellectuelles. Donc ces nouveaux secteurs fondés sur les technologies de l'information sont notre futur.
À Vilnius, les contrastes de revenus sont grands. Lorinas Katkus est le voisin de cette start-up, mais au quotidien, il est confronté à une toute autre situation. Il a vécu au Mexique et il craint que la Lituanie ne connaisse le sort des pays d'Amérique latine, des pays sans classe moyenne.
Le secteur public est constamment sous-financé. Même si notre situation économique est aussi bonne que celle de nos voisins proches, les salaires des fonctionnaires, des docteurs, des enseignants, des bibliothécaires sont beaucoup plus faibles. Ma femme enseigne depuis 5 ans, mais elle gagnait bien plus d'argent quand elle faisait sa thèse grâce aux différentes bourses. Aujourd'hui, à l'université, un professeur avec un titre de docteur gagne entre 600 et 700 euros par mois pour un temps plein.
Malgré une croissance époustouflante, l'économie lituanienne est aujourd'hui dos au mur et la situation est plutôt contradictoire. D'un côté, le taux de chômage est assez élevé et d'un autre, certains secteurs économiques font face à un manque criant de main-d'œuvre. Les Ukrainiens sont alors appelés à la rescousse pour travailler comme chauffeurs routiers ou dans le secteur du bâtiment. Le nombre de permis de travail qui leur ont été accordés a doublé en l'espace d'un an. Une démographie en berne et une émigration de masse accentuent encore plus le problème. Une situation que toutes les familles lituaniennes connaissent dans leur entourage, Donatas Katkus aussi.
Beaucoup de gens sont partis, bien souvent, car ils ne pouvaient pas survivre ici, en Lituanie. C'est ce qui s'est passé pour la fille de ma cousine. Elle a perdu son travail au Kolkhoz, alors elle est partie à Londres. Elle prépare les plateaux repas pour les compagnies aériennes. Ça lui convient parfaitement. Elle ne parle pas l'anglais, mais lituanien, polonais ou russe. Et aujourd'hui, c'est sa vie.
En l'espace de 25 ans, la Lituanie a perdu un demi-million d'habitants. Même si les retours s'accélèrent depuis quelques années, le solde migratoire reste toujours négatif. En 2017, 57 000 Lituaniens ont quitté le pays. Direction le Royaume-Uni, la Norvège ou l'Islande. Plus que jamais, cette question est à l'agenda politique. Dans son bureau, au troisième étage du Parlement, Žygimantas Pavilionis est au travail, dès 8h du matin. Ancien diplomate, ambassadeur aux États-Unis, il a été élu député à l'automne 2016 sur la liste conservatrice avec un programme « Instaurer la double citoyenneté pour tous les Lituaniens ». Seuls les mineurs ont bénéficié à ce jour. Et pour lui, cette décision encouragerait les Lituaniens qui résident à l'étranger à s'investir pour leur pays.
Depuis le XVIIIe siècle, les Lituaniens ont commencé à émigrer dans le monde entier. Aux États-Unis, il y a environ 1 million de personnes d'origine lituanienne. Ils ont joué un rôle déterminant quand il s'est agi de reconquérir notre indépendance en 1990. Ils font entièrement partie de notre identité. Si ces liens venaient à se rompre, nous redeviendrions un petit pays, fragile et bien moins puissant. Si nous prenons en compte notre diaspora, nous faisons partie ainsi du monde entier. Londres devient un deuxième Chicago. Plus de 300 000 Lituaniens y habitent. L'enjeu aujourd'hui est de structurer cette relation.
La Russie, le grand voisin à l'est de la Lituanie, a de tout temps marqué la vie du pays. L'annexion de la Crimée en février 2014 a réveillé de vieux démons. Moscou aurait-elle de nouveau l'intention d'envahir le pays ? La mémoire de la répression soviétique est toujours vivante. Comme des milliers de Lituaniens qui ont choisi de faire leur service militaire récemment rétabli ou de s'engager dans l'Union des tireurs, Laurinas Katkus a, lui, signé chez les Bérets Rouges, les réservistes volontaires de l'armée. Son uniforme est accroché dans la penderie de l'entrée.
Carte per mienesi.
Une fois par mois, le week-end, je dois participer à des exercices. La plupart du temps, nous travaillons dans notre unité sur les opérations psychologiques, tout ce qui touche à l'information. L'annexion de la Crimée a été un choc immense, et l'année qui a suivi, pour rester pudique, a été éprouvante. Aujourd'hui, une certaine routine est apparue. Les réactions sont moins épidermiques, notamment car différentes mesures ont été prises. Mais tant que notre voisin cultivera les mêmes ambitions impérialistes, impossible de dormir tranquille.
L'une des mesures prises pour assurer la sécurité de la Lituanie est la présence d'un bataillon multinational de l'OTAN depuis février 2017. Un millier de soldats qui sont là dans un but uniquement dissuasif. Cette année, 300 Français sont venus en renfort. La question militaire domine l'agenda politique. Le budget de la défense est cette année de près de 900 millions d'euros. Il a presque quadruplé entre 2013 et aujourd'hui. Quand il se battait avec les Frères de la Forêt contre l'occupant soviétique dans les forêts lituaniennes, une guerre qui a duré jusqu'en 1953, Juozas Jakavonis, surnommé le Tigre, aujourd'hui 90 ans, rêvait que les Américains viennent les sauver des griffes communistes.
J'avais des cousins en Amérique. L'un d'entre eux était chirurgien militaire. Il avait fait le Vietnam. Il nous écrivait des lettres en disant de ne pas nous inquiéter, que les Américains allaient venir sauver les petites nations. Ma mère et nous, les enfants, nous comprenions peu de choses à la grande politique. Mais en lisant ces courriers, nous pleurions de joie. Aujourd'hui, je suis sûr que notre meilleure arme, c'est le patriotisme.
Eglė Murauskaitė donne rendez-vous dans un café de Vilnius. Cette chercheuse lituanienne, spécialiste des questions de sécurité, est employée par l'Université américaine du Maryland pour créer des exercices de simulation de crise. La dernière en date remonte à 2015. Ambassadeurs et généraux ont dû plancher sur l'explosion en territoire lituanien à bord d'un train en provenance de Russie, devenant le prétexte à une invasion sous couvert d'opérations de secours.
Dans une simulation, il n'y a pas de vainqueur, comme au Monopoly. L'enjeu de l'exercice est de mettre à l'épreuve les différentes institutions, déterminer où en sont les niveaux de préparation. Il est apparu que les Lituaniens et les Américains ou l'OTAN avaient une perception très différente d'où vient le danger. Je sais qu'en conséquence, des fonds supplémentaires ont été alloués pour mieux comprendre les événements considérés comme normaux en Lituanie et ceux qui ne le seraient plus.
Les fake news sont l'exemple type d'événements dont la portée peut être comprise différemment selon les contextes. La rédaction de Jinura Dias, une radio d'info écoutée, en a récemment fait les frais, comme d'autres médias avant eux. Une réalité à laquelle la Lituanie doit faire face aujourd'hui. Aurimas Perenis, la voix de la radio, raconte l'incident.
Il y a quelque temps, une information tout à fait infondée a circulé. Lors d'une interview, un journaliste de notre radio aurait harcelé sexuellement le ministre de la Défense. J'ai éclaté de rire en entendant cette nouvelle. Évidemment, il y aura toujours des gens qui voudront nous affaiblir. Mais notre réponse est de justement combattre les inégalités et de ne pas éviter de débattre sur toutes sortes de questions. En réagissant à ce genre de nouvelles, il faut faire très attention à ne pas leur donner une visibilité excessive.
La sécurité n'est pas uniquement synonyme d'armes et de présence militaire. Egle Murauskaitė en est convaincue.
La sécurité se loge parfois dans des enjeux très terre-à-terre. J'ai lu récemment, dans un rapport, que les régions du sud-est de la Lituanie, où les minorités ethniques russes, polonaises et biélorusses sont les plus représentées, qu'elles sont aussi des régions où plus de 30% de la population ne bénéficie pas du tout à l'égout. 20% de ces gens n'ont pas non plus les moyens d'acheter de la viande deux fois par semaine. Si un sauveur arrive et leur offre une vie meilleure, ils prendront, car leurs conditions de vie sont indécentes. La sécurité, ce n'est pas plus compliqué que ça.
Parler des mots qui fâchent, c'est le rôle des artistes aujourd'hui. La scène culturelle est foisonnante et la mémoire l'un des sujets les plus actuels. Le passé soviétique et l'Holocauste occupent aujourd'hui les esprits. C'est ce que remarque le critique Vaidas Jauniškis.
Les artistes et les intellectuels s'engagent de plus en plus dans des discussions publiques. Pourquoi, par exemple, le dramaturge Marius Ivaškevičius a décidé d'organiser une marche à Molotaï pour honorer les Juifs assassinés? C'est un sujet dont les chercheurs parlaient entre eux. Pour moi, les médias sont frileux quand il s'agit d'aborder ces questions soulevées par le public. Le plus important est non pas de créer une œuvre sur ces sujets, mais d'en discuter ouvertement. Impossible alors de se cacher derrière des questions de style ou de métaphore.
Dans les années 1920, un géographe lituanien avait chéri l'idée de transférer la Lituanie en Angola pour échapper aux dangers venant de la Russie bolchevique puis de l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, la Lituanie n'a jamais eu autant d'amis sur la scène internationale. L'historien Norbertas Černauskas.
Ces derniers temps, on critique souvent la Lituanie en dénonçant son manque de vision pour le futur par rapport à la période de l'entre-deux-guerres. Mais cette posture empêche de réaliser ce que nous avons déjà accompli. Il y a 25 ans, l'Union européenne, l'OTAN, l'indépendance énergétique n'étaient que des fantasmes. Aujourd'hui, je voudrais surtout qu'on pense à l'avenir et plus au passé.
Un nouveau rapport entre les citoyens et leur pays, c'est ce que souhaite Laurinas Katkus pour le prochain centenaire de la Lituanie.
Je suis quelqu'un de concret. Je pense que les Lituaniens vont enfin se mettre à avoir un regard objectif sur eux-mêmes. Ainsi, ils réussiront à se faire confiance et pourront agir. Les idées foisonnent en ce moment en Lituanie, mais la volonté politique, l'implication de la société font encore défaut pour les réaliser.
Les derniers jours avant les commémorations du centenaire, la vente de drapeaux a explosé. Cette année, il n'y aura que trois couleurs à la mode en Lituanie, le jaune, le vert et le rouge. Elles sont partout, aux fenêtres, sur les voitures de police, les bus de ville, au revers des vestes, sur les bonnets, les écharpes. Et même les locomotives jouent l'hymne lituanien, dirigé par Donatas Katkus. La Lituanie a 100 ans, état des lieux, un grand reportage de Marielle Vitureau à la réalisation Eva Moshinsky.